BPM. Élections législatives 2022.
Bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Il est 7h30. Le deuxième tour des élections législatives aura lieu dimanche. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les candidats qualifiés pour le deuxième tour dans la 8e circonscription viennent répondre à nos questions et nous accueillons ce matin Edwige Hervieux. Edwige Hervieux, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment ça va ce matin?
Bah écoutez, je vais bien, dernière journée de campagne, donc très motivé, toujours sur le terrain, tout va bien.
Alors on va revenir ensemble sur les résultats de ces élections. Au niveau national, la coalition de la majorité Ensemble l'emporte d'une courte avance, 25,75% des voix. Ensuite, NUPES arrive avec 25,66% des suffrages, le Rassemblement National 18,68%, les Républicains 11,29% et Reconquête 4,24%. Alors seulement 21 441 voix de départ se séparent la majorité présidentielle de NUPES. Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats au niveau national?
Écoutez, ces résultats au niveau national sont ce qu'ils sont et ils prouvent simplement que les législatives intéressent beaucoup moins parce qu'il y a quand même une abstention qui est extrêmement forte.
On va revenir sur l'abstention.
Voilà, après, c'est surtout, je pense, la coalition, j'allais dire, de tous les mouvements de gauche qui font que, effectivement, NUPES est aussi élevé dans les sondages. Mais quand on regarde bien par rapport au premier tour des présidentielles, ils font moins bien. Ils font moins bien, donc je pense que le français, malgré tout, n'est pas dupe de ce montage, en fait, non naturel, d'ailleurs, des différents partis à l'intérieur de la NUPES.
C'est quand même très, très serré. Hein. Enfin, vous êtes au coude à coude.
Oui.
Hein,
oui, on... oui, mais pour autant, je pense que les Français... si vous voulez, le rassemblement NUPES n'existera pas en fait à l'Assemblée nationale. Ils ne s'entendent déjà pas sur certains sujets, donc ça va être très très compliqué.
Vous croyez vraiment ?
Oui, ouais, je le crois, c'est qu'il y a vraiment des...
Parce qu'on disait ça aussi des macronistes tout au début, rassembler des gens de la gauche, de la droite, ils vont pas réussir à s'entendre et vous avez réussi à vous entendre.
Oui, sauf que, pour le coup, ils veulent tous garder leur entité à l'intérieur de NUPES, ce qui n'était pas le cas, en fait, du rassemblement que nous avons fait avec La République En Marche.
Alors, on va revenir sur la 8e circonscription des Yvelines. Vous êtes arrivé deuxième, avec 24,35%. Benjamin Lucas de NUPES est arrivé premier avec 33,37% des voix. Cyril Naute est arrivé troisième avec 22,33%. Député sortant Michel Vialet, 7,85%, quatrième. Et Anne Sicard reconquête 3,5%. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces résultats?
Oui,
c'est décevant pour vous ou c'est...
Alors, écoutez, décevant, je dirais pas que c'est décevant, je dirais que c'est normal. La 8e circonscription est historiquement une circo de gauche. Donc, je ne suis pas étonnée des résultats. Par contre, en fait, ce que je sais, c'est que je suis challenger. Hein. Personne ne voyait, en fait, arriver le rassemblement ensemble au deuxième tour. Et ça, c'est une très bonne chose. Voilà, il y a effectivement 2700 voix qui nous séparent, mais il y a aussi une forte abstention. Au premier tour, en général, y compris pour les législatives, il y a vraiment, en fait, ce qu'on appelle un vote contestataire. Voilà, c'est le vote de mécontentement et on l'a compris aussi au premier tour des présidentielles et ça ne nous a pas empêché de gagner.
Parce que les extrêmes font quand même un gros score si on additionne Anne Sicard et Cyril Naute.
Oui.
Ils sont même devant vous.
Bien sûr, oui. Oui, oui. Alors, encore une fois, c'est ce que je vous dis, vous allez avoir à l'intérieur de ces résultats vraiment un vote contestataire et pas pour autant un vote d'adhésion. Le terrain cette semaine m'a appris une chose, c'est que certaines personnes ont voté Rassemblement National, alors je n'ai pas eu de reconquête, mais certaines personnes ont voté Rassemblement National et pour autant ne sont pas du tout d'accord avec le programme en fait que proposait Cyril Naute. Je pense qu'il faut vraiment faire attention, voilà, il y a vraiment en fait si vous voulez des personnes qui sont mécontentes, mais mécontentes j'allais dire du système en général. Et qui l'exprime dans les extrêmes, y compris d'ailleurs du côté de NUPES.
Mais du côté NUPES, Benjamin Lucas a débarqué dans le Mantois il n'y a pas si longtemps.
Oui. C'est ce qu'on appelle un parachuté.
Voilà, c'est ça. C'est vous qui le dites, hein.
Ouais, c'est le cas. C'est
voilà, cas. On lui posera la question tout à l'heure à 8h30. Il arrive premier.
Oui.
Même à Mantes-la-Jolie.
Mm-hmm.
Alors.
Oui. Bah, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il rassemble en fait la gauche, hein, exactement comme Mélenchon. Après, ce qu'il faut bien entendre et ce que les auditeurs doivent bien comprendre aussi, c'est qu'ils défendent le projet de Mélenchon. Un projet qui divise les Français, un projet qui fait que la France va aller droit dans un mur, un projet qui ne fait que dépenser et qui va chercher en fait l'argent toujours sur les mêmes personnes, ceux qui payent déjà en fait aujourd'hui. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. On ne peut pas fonctionner comme ça. La France va être endettée. On parle de plus de 200 milliards par an de dépenses.
Elle est déjà avec le Covid.
Oui, mais bien sûr, oui, bien sûr. Et est-ce que pour autant, alors pour le coup, c'est très bien que vous me posiez la question, enfin que vous me le dites. Est-ce que pour autant, on a effectivement le plein emploi? Est-ce que pour autant, on n'a plus de crise sociale? Non. Les problèmes ne sont pas réglés comme ça. Voilà. Donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Nous, notre projet, c'est un projet réaliste, un projet qui, par ailleurs, baisse la dette. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention en fait à ce que propose Mélenchon, parce que ça sera vraiment pour nos enfants et nos petits-enfants que les choses vont être extrêmement difficiles.
Le taux d'abstention, alors 52,49% au niveau national, 58,75% dans la 8e. Alors on sait que déjà que la 8e, bon, de base, ça vote pas beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Est-ce que c'est un désaveu ou alors les gens, la politique c'est bon, on n'y croit plus?
Alors je pense qu'il y a deux choses. Je pense que l'abstention évoque une chose certaine, c'est que les gens n'aiment pas et ne souhaitent plus de la politique telle qu'elle est en fait aujourd'hui. Vous voyez, on prend l'exemple par exemple de Benjamin Lucas. Benjamin Lucas est un apparatchik. Il vient, il nous est arrivé en fait du Nord, d'Amiens, où il est conseiller régional. Pendant qu'il fait sa campagne ici, il est payé en fait par ses indemnités, des indemnités de fonction qu'il touche de la région des Hauts-de-France. Et ça, en fait, les Français n'en veulent plus. C'est-à-dire que, par exemple, je lisais hier et je souriais qu'il me reprochait en fait de ne pas être sur le terrain. Je suis première adjointe de Mantes-la-Jolie. Je fais mon job de première adjointe aussi pendant cette campagne. Mes indemnités, en l'occurrence, viennent compenser la perte de salaire que j'ai quand je suis dans mon rôle de première adjointe. Alors là, dans le cadre de la campagne, effectivement, pour le coup, je ne travaille plus du tout. Donc, je n'ai plus du tout de salaire. Mais ce monsieur n'a jamais travaillé de sa vie. Comment peut-il venir nous parler de retraite et de réforme sur la retraite quand on n'a jamais travaillé? Il fait partie de ces gens qui profitent, en fait.
La politique, c'est pas un travail pour vous?
Non, la politique, ça ne doit pas être un travail pour nous.
Ça s'est un peu tendu cette semaine, la campagne. On vous a reproché de ne pas vouloir faire de débat.
Oui, oui. Bah, écoutez, oui, c'est ce que je vous disais en fait. Pour le coup, nos programmes sont complètement différents. Ils sont, voilà, on est opposés sur tout. Donc c'est bien de débattre en fait aussi avec des gens qui ont, j'allais dire, sur les choses en fait où vous allez pouvoir être d'accord. Or là, on n'est pas d'accord sur la nucléaire, on n'est pas d'accord sur la partie sociale, on n'est pas d'accord sur la partie emploi, on n'est d'accord sur rien. Donc c'est compliqué d'échanger pour que ça se finisse en fait en pugilat. Et les Français, ça, ils n'en veulent plus. C'est vraiment en fait quelque chose qui, ça n'honore pas. Voilà, ça n'honore pas la fonction de politique telle qu'on peut l'entendre. Et je pense que vraiment, et d'ailleurs les Mantais et les gens du Vexin, en fait, je pense, pour notre 8e circonscription, qu'il ne valait mieux pas le faire.
Alors, est-ce que vous ne croyez pas que le score de Benjamin Lucas est également dû au pouvoir d'achat des personnes dans la 8e circonscription? Parce que c'est dur, c'est dur.
Bien sûr, bien sûr.
Comment on va pas se cacher.
Bien sûr, bah, le pouvoir d'achat, ça fait partie effectivement aussi de notre programme sur lequel on souhaite travailler.
Alors, quels sont...
On sait que les Français ont du mal à finir les fins de mois. C'est pas d'aujourd'hui. On a eu la crise des gilets jaunes en fait en début de mandat précédent. Voilà, il faut absolument qu'on travaille sur la partie du pouvoir d'achat, bien entendu.
Mais qu'est-ce que vous proposez justement ?
Mais il y a plein de choses, par exemple le bouclier, j'allais dire énergie, le fait de pouvoir bloquer en fait toute cette inflation qui aujourd'hui coûte extrêmement cher et qui d'ailleurs avec la crise en Ukraine ne va pas arranger les choses et ne les arrange pas déjà. Mais en même temps, vous voyez, on n'est pas d'accord non plus sur les positions de l'Ukraine. L'Ukraine, il faut aider, voilà, c'est un pays qui est aux portes de l'Europe.
Le président de la République est en Ukraine hier ?
Oui, tout à fait. Et c'est une bonne chose, vraiment, c'est une bonne chose. Il faut accompagner ce pays, il ne faut pas le laisser en fait sombrer aux mains de Poutine.
Mais comment l'accompagner ? Parce que d'un côté, on dit il faut accompagner ce pays, de l'autre côté, on dit il faut pas rentrer en guerre contre les Russes.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on n'est pas un pays qui aimons faire la guerre, et ça, c'est une bonne chose. Mais l'accompagner militairement, j'allais dire, avec ce que l'on peut produire pour eux, pour pouvoir se défendre.
Et contre la hausse des carburants, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Bah écoutez, la hausse des carburants, on peut pas grand-chose non plus. Voilà, on a fait ce qu'on pouvait dans un premier temps. Après, il faut aussi qu'on pense justement à plus tard. On le dit, hein, il faut absolument qu'on passe sur d'autres énergies en fait que les énergies fossiles et de manière, j'allais dire, douce, parce que sinon.
Quoi, justement, les voitures électriques vont faire. Les voitures thermiques vont s'arrêter en 2035. Mm-hmm. Remplacées par quoi ? Par des voitures électriques ?
Mais écoutez, ça en fait partie, c'est bien sûr. Oui, tout à fait. Mais de manière.
Comment je vais faire pour aller à Montpellier, moi, en vacances ?
Non, mais tout va être étudié et c'est sur le. Et justement, ça fait partie aussi du travail que l'on doit faire à l'Assemblée de pouvoir, en fait, passer sur cette transition écologique.
La retraite. Un gros sujet, oui. National, local, mm-hmm. pour tout le monde. Donc vous êtes pour la retraite à 65 ans ?
Alors je suis pour une réforme sur la retraite.
D'accord,
je suis pour une réforme à la retraite. Moi je suis quelqu'un qui travaille, donc effectivement, je sais que 65 ans c'est déjà loin pour moi. Voilà. Est-ce que j'aurai la forme en fait d'aller jusqu'à
65 ans, vous êtes encore jeune. Hein.
Oui,
bien sûr. 68, 60, parce que c'est ça que les gens se disent. Si oui. On passe à 65, dans 10 ans, on va passer à 70, etc. Hein.
Bien sûr. Bah alors écoutez, en fait, j'ai envie de dire, n'importe qui peut arrêter de travailler à l'âge qu'il souhaite. On va dire ça comme ça. Par contre, après, c'est combien on veut toucher, en fait, à la fin du mois, à la retraite. Hein. Parce que la retraite à 60 ans, comme proposé, en fait, par Mélenchon, eh ben, c'est pas une retraite pleine. Alors, on peut partir à 60 ans avec 700 euros de retraite. C'est un choix. Par contre, 700 euros, en fait, eh ben, on ne vit pas avec 60 euros, avec 700 euros. Donc, je pense
mais il propose
faut...
aussi 1000 euros, je crois, comme vous, de enfin, on donne de l'argent aux retraités, pas moins de 1000 euros, c'est ça ?
Oui, mais en fait, pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir justement en fait abonder cette retraite. Aujourd'hui, c'est les gens qui travaillent qui payent la retraite. Donc, le programme en fait de Mélenchon ne permet pas cette chose-là. Si on augmente les charges des sociétés. Les sociétés ne pourront pas tenir, elles fermeront, elles licencieront d'abord et elles fermeront ensuite. L'emploi ne fonctionnera pas. On aura un taux de chômage en fait extrêmement important et beaucoup plus important en fait que l'on a aujourd'hui. Il faut savoir quand même aujourd'hui qu'avec le mandat que l'on a fait et toutes les mesures qui ont été prises, nous sommes à 7% en fait de taux de chômage. Ce ne sera plus le cas avec Mélenchon. Voilà. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut entendre. Pour revenir en fait à notre programme sur la retraite, à la réforme des retraites, il y a une concertation qui va être faite en fait avec les partenaires sociaux. C'est pas quelque chose, bien sûr, on sait qu'il faudrait aujourd'hui, j'allais dire mathématiquement, aller jusqu'à 64 ou 65 ans de retraite pour pouvoir en fait toucher une retraite plutôt digne et pleine. Une retraite pleine, je dis bien. Et ça, il faut vraiment que le travail, c'est quelque chose en fait aussi d'honorable. On ne peut pas vivre en fait que des aides en fait de l'État. Voilà. Mais ça, il faut travailler pour pouvoir le savoir.
Mais quand on travaille et qu'on nous promet 1500 euros de SMIC, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, écoutez, 1500 euros de SMIC, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Allez, allons-y, pourquoi pas ? Si c'était que celle-ci, le problème, c'est le cumul de toutes.
Alors, c'est lesquelles qui vous...
Les 1500 euros, la prime pour les jeunes, je crois, à 500, de toucher 1000 euros jusqu'à 25 ans. L'assistana, en fait, on ne peut pas fonctionner comme ça. Si on a 1000 euros, mais à quoi bon aller travailler ? À quoi bon aller travailler ?
Est-ce que ce n'est pas le cas déjà ?
Alors, c'est déjà, c'est ce qui se dit. Alors, imaginez, en fait, si ça devient, si c'est en plus 1000 euros, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça. Mais...
On va revenir sur un sujet plus local. Alors là, pour ou contre la prison à Magnanville.
Alors, ni l'un ni l'autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, l'État est régalien sur ce type de sujet. Il décide, on n'aura pas notre mot à dire. Nous tous, j'allais dire. Honnêtement, s'il a envie d'implanter une maison à Magnanville, ou j'allais dire à côté de l'hôpital de Mantes-la-Jolie, ou dans une carrière, peu importe où, on n'aura pas notre mot à dire. Par contre, en fait, il y a des comités de pilotage qui ont été créés. Pour justement échanger en fait avec les habitants. La seule problématique que l'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, on avait un député d'opposition à l'Assemblée nationale qui ne pouvait pas parler en fait avec le gouvernement. Aujourd'hui, si je suis élue, le gros avantage, c'est que moi, je serai vraiment la personne qui pourra aller échanger avec le ministère de la Justice. Chose que ne pourront pas faire, en fait, mes concurrents.
Enfin, votre concurrent, là.
Exactement. Après, il y a trois sites qui ont été proposés. De ce que j'ai pu lire et comprendre, en fait, de ce dossier, que l'on n'a toujours pas vraiment, j'allais dire, eu dans les mains, parce qu'on nous demande de nous positionner sur un sujet dont on n'a pas le dossier. C'est pareil, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut peut-être avoir le dossier, savoir où elles sont implantées exactement, quelles sont les raisons de ce choix. C'est une chose importante. Et on nous parle d'un troisième projet qui aurait été proposé, en l'occurrence, par le maire de Magnanville. Soit, quel est ce site? Aujourd'hui, je n'en sais rien. On nous a demandé de nous positionner sur un sujet dans lequel on ne sait pas. Donc, je dis peut-être que le troisième site est un bon site. Je ne le sais pas. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne me positionne pas. Par contre, moi, effectivement, je m'engage à échanger avec le gouvernement, et en l'occurrence avec le ministère de la Justice, pour pouvoir faire entendre la voix, en fait, des Magnanvillois.
Et là, le premier site, à côté d'école, à côté de maison, vous en pensez quoi de ce site-là? Le site qu'on connaît?
Bah, écoutez, il peut y avoir mieux. Très clairement, je comprends la colère des habitants de Magnanville. C'est sûr que c'est assez embêtant. Maintenant, vous savez, on m'a dit ça posera des problèmes de sécurité.
Surtout de bruit, hein, parce qu'une prison, c'est bruyant. Hein. Ça crie la nuit, hein.
Ça crie la nuit, mais alors, vous voyez, vous remontez quelque chose d'assez important. Au-delà de ça, par contre, ça attire beaucoup de sécurité, en fait, dans la ville. Voilà, les Magnanvillois, ils souhaitent aussi plus de sécurité. Donc, c'est un fait, quand on a une maison d'arrêt dans sa ville, forcément, il y a beaucoup plus de moyens sur au niveau forces de l'ordre pour pouvoir, en fait, en l'occurrence, la surveiller. Donc, c'est peut-être, je ne vais pas dire que ce n'est pas plus mal pour le lycée, mais quelque part, aujourd'hui, aux alentours des lycées, on ne sait pas ce qui s'y passe. Bon, bah là, effectivement, ce sera quelque chose de très protégé. Maintenant, honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit le bon site, très clairement. C'est peut-être trop proche, je le reconnais, mais encore une fois, je ne peux pas échanger aujourd'hui avec le ministère de la Justice.
Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire sur le thème de la santé?
Oui.
Qu'est-ce que vous comptez faire si vous êtes élu?
Alors, écoutez, si je suis élue, ce qu'il faut vraiment faire aujourd'hui, c'est essayer de faire en sorte qu'on retrouve une médecine de proximité dans nos villes et villages.
Parce que non, mais ça, c'est dans toutes les élections, j'entends ça. Hein.
Oui.
Les municipales, il n'y a pas si longtemps,
oui.
C'était les
alors,
maisons de santé, les cantonales, enfin les départementales maintenant, pardon. C'était déjà ça, les régionales, c'était déjà ça. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Là, on parle d'un niveau national, si vous êtes
bien
député.
Bien sûr, mais en même temps, on fait les fruits de ce qui a été fait, en fait, auparavant. Il y avait des quotas, en fait, hein, par rapport aux années naissines, qui a été effectivement été réévalué, hein, de manière à pouvoir, si vous voulez, aujourd'hui, avoir plus de médecins, en fait. Parce que c'est ça, c'est un manque de médecins que l'on rencontre. Donc, en fait, on ne fait pas des miracles non plus. Il faut attendre déjà aussi que cette première réforme que l'on a fait sur cette partie des quotas puisse porter ses fruits. Et ça va bientôt arriver.
Il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut dire aux abstentionnistes, aux auditeurs qui nous écoutent pour aller voter ce week-end?
Mais écoutez, je pense qu'il faut faire en fait entendre votre voix, qu'elle soit d'ailleurs que ce soit du mécontentement ou pas. Par contre, si c'est une voix de mécontentement, et c'est surtout ces auditeurs que je souhaite vraiment sensibiliser en premier, le programme de Mélenchon nous mènera droit dans un mur. Vraiment, nous serons un pays qui aujourd'hui, nous sommes 7e sur le plan mondial, on finira 28e. Voilà, ça c'est des projets qui ont, par exemple, qui ont été faits. Ils veulent plus d'emplois, on aura plus de chômage. Ils veulent plus de social, on ne pourra plus payer le social. Donc il faut vraiment faire très très attention au programme de Mélenchon, qui est vraiment un programme mensonger et irréalisable.
Merci Edwige Gervieux d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Et je vous remercie pour l'invitation.
À 8h30, ce sera Benjamin Lucas de NUPES qui sera notre invité. Cette interview, vous la retrouvez en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast puis élections législatives. Excellente journée à l'écoute de BPM.
BPM, élections législatives 2022.